Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un mot qui est dans la Bible et qui a un double sens. Il a le sens à la fois de tentation et en même temps le sens d'épreuve. C'est le même mot, en grec c'est le mot peirasmos. Peirasmos. Et en fait, quand on lit la Bible, selon le contexte, eh bien on va le traduire comme tentation ou on va le traduire comme épreuve. Et dans ces deux mots, tentation, épreuve, il y a quand même une différence de sens. Hein. Une tentation, une épreuve, ce n'est pas vraiment exactement la même chose. Mais en même temps, la tentation est une épreuve. Et dans l'épreuve, eh bien, il peut y avoir une tentation. Hein. Une tentation de défaillir, d'être infidèle, de jeter l'éponge en quelque sorte. Hein. Et donc, il y a quelque chose qui est quand même imbriqué dans l'idée de la tentation et de l'épreuve. Et j'aimerais qu'on prenne un premier passage, vous allez l'avoir affiché derrière moi si vous n'avez pas de Bible, c'est Jacques chapitre 1 et verset 13. Il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc dans ce passage, le verbe « tenter », c'est « peirasmos ». Et ici, c'est bien le sens de tentation, dans le sens d'être tenté à faire quelque chose qui est mal. Et il est dit à ce sujet, « Dieu ne tente personne ». Dieu ne pousse personne à tomber dans le péché, à faire le mal, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'en charge. La Bible dit qu'il y a un ennemi, l'ennemi de Dieu qui, lui, se charge de tenter les hommes et de les pousser à commettre le mal. Il s'appelle le diable et le diable est aussi appelé le tentateur dans la Bible, dans les Écritures. Et Dieu ne veut pas que nous tombions dans le péché, mais le tentateur, lui, voudrait que nous tombions dans le péché. Il veut nous y pousser. Mais on ne peut pas faire abstraction d'une vérité, c'est que Dieu permet quand même que nous soyons tentés. Il ne tente pas lui-même. Mais il permet que nous soyons tentés. Ça, c'est une vérité. Ça veut dire qu'il laisse parfois le diable agir et se mettre en travers de notre chemin. Dieu pourrait très bien éliminer le diable. Il pourrait l'empêcher. D'ailleurs, les Écritures disent qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, c'est ce que Dieu fera. Il le mettra de côté pour un temps qu'on appelle le millénium et ça sera terminé. Il n'y aura plus de tentation subie par le diable. Mais Dieu ne le fait pas aujourd'hui. Et en attendant, eh bien, il laisse voilà, des choses que l'on ne voit pas, des esprits que l'on ne voit pas, qui sont là derrière et qui agissent et qui nous tentent. Et si Dieu le fait, c'est parce qu'il vise un but. À ce sujet, c'est quand même intéressant de voir que dans le Notre Père, qu'est-ce que Jésus dit au sujet de la prière? Il dit, les disciples ont demandé, mais comment devons-nous prier? Il dit, dans la prière, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Hein, donc, Jésus nous exhorte à prier pour ne pas justement eh bien, être induit dans la tentation et donc pour qu'on soit gardé des tentations et qu'on n'y cède pas. Et donc, il y a un recours, il y a un moyen d'être protégé de la tentation, c'est demander à Dieu et demander chaque jour, « Seigneur, garde-moi, protège-moi au cours de ma journée. » Mais le même mot, ce même mot, il est aussi traduit par « épreuve ». Et on le voit dans les versets qui précèdent ce qu'on vient de lire dans Jacques. Regardez Jacques, chapitre 1, et cette fois les versets 2 à 4. Il est dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, peirasmos, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve, peirasmos, de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Et là, donc, c'est traduit dans ce sens d'épreuve, et donc dans l'idée d'une difficulté, d'une souffrance, d'une résistance, de quelque chose qui va nous éprouver dans la vie. Et Dieu permet sans aucun doute qu'on soit éprouvé de diverses manières. Hein. Il y a toutes sortes d'épreuves autour de nous, mais il y a un but, il y a une fin, quelque chose que Dieu est en train de viser. Il y a une expression en anglais, c'est « no pain, no gain ». Ça veut dire « sans peine, eh bien, il n'y a pas de gain ». Et c'est une vérité, hein. C'est que, eh bien, il y a un gain, il y a quelque chose de bon, mais ça passe aussi par des peines, ça passe aussi par des épreuves. Et Dieu, il est dit dans ce passage, veut produire en nous la patience. Il veut produire cette patience, hein, cette vertu qui nous transforme afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc dans le même texte ici de Jacques, on trouve les deux sens de peirasmos, à la fois épreuve et en même temps tentation. Et au milieu de ces deux passages, il y a un verset que j'aimerais qu'on lise maintenant, c'est le verset 12, où il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, peirasmos, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc là, notre traducteur a choisi de traduire par « tentation », mais c'est aussi possible de le traduire par « épreuve », hein. Et la promesse, elle est valable pour l'un ou pour l'autre. Hein. Heureux l'homme qui supporte patiemment, que ce soit la tentation dans ce monde, que ce soit l'épreuve et les souffrances qu'il supporte dans ce monde, parce qu'après avoir été éprouvé, il dit, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce verset 12 ? D'abord que résister à la tentation, résister à l'épreuve, c'est une preuve de notre amour pour Dieu. Il le dit, hein, promise à ceux qui l'aiment. Et donc, si on supporte patiemment, on démontre qu'on aime le Seigneur, qu'on veut lui plaire. On lui dit, je t'aime, on lui dit, tu le permets, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et puis, la deuxième chose qu'on apprend, c'est que Dieu va consoler, va récompenser à terme parce que nous aurons supporté patiemment. Il dit, il recevra la couronne de vie. Donc, que ce soit la tentation ou l'épreuve, Dieu le permet. Et ça, c'est important de le comprendre. Lorsque Jésus est entré dans son ministère, au tout début de l'évangile, on voit que l'Esprit le conduisit dans le désert. Pourquoi faire ? Pour être tenté. L'Esprit de Dieu l'a poussé dans le désert. Et donc, c'est le Père qui a conduit son Fils unique pour être titillé dans des choses qui le touchaient, hein, où il était susceptible de tomber. Et le diable, bien sûr, n'a pas réussi à le faire tomber, Christ ayant répondu à chaque fois par les Écritures. Mais il est dit qu'il le quitta en attendant un moment plus favorable. Et puis, quand on lit le reste des Écritures, on voit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Ça veut dire qu'il est revenu après et qu'il a tenté encore et encore. Et Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, mais il a été victorieux. Il a résisté à ses tentations. Il est resté dans l'obéissance et dans la dépendance de son Père. Donc Dieu a permis la tentation pour son propre Fils, son Fils unique. Et Jésus a été ainsi fortifié aussi, hein, en tant qu'homme, dans ses choix déterminés à suivre son Seigneur, son Père, son Dieu. Dieu ne tente pas, mais le diable tente et Dieu peut le permettre. De la même manière, Dieu peut permettre l'épreuve. Un des exemples le plus parlant, c'est Job. En général, tout le monde connaît l'histoire de Job dans la Bible. Job, un homme intègre, un homme qui était pieux dans son temps, mais pourtant qui va être rudement mis à l'épreuve. Et Dieu autorise le diable à le frapper en plusieurs domaines. D'abord, à le frapper matériellement, il perd ses biens. Ensuite, à le frapper affectivement, il perd ses propres enfants. Et puis, à le frapper physiquement, il perd sa santé. Quand même quelque chose, hein, de vivre tout ça. Maintenant, est-ce que Dieu utilise toujours le diable pour éprouver ? Ben non, pas forcément. Pas forcément. Mais il est tout de même un élément dans le plan de Dieu qui va façonner la vie de ses enfants, la vie de ceux qu'il aime, que ce soit par la tentation ou bien par l'épreuve. Mais il y a un verset qui est essentiel et qui nous aide à avoir toujours confiance en Dieu. C'est 1 Corinthiens 10, verset 32. Verset important où il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » 1 Corinthiens 10, 32. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » C'est pas ça ? 31. 13. Ah, voilà, inversé, pardon. 1 Corinthiens 10, 13, pardon, oui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et on peut aussi dire, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. Dieu règne. Il est Dieu. C'est lui qui fait battre notre cœur. Il règne. Alors certes, le diable peut parfois cribler, peut parfois attaquer de diverses manières, ou simplement par des circonstances. Hein. Il y a des circonstances, parfois on se dit, mais c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu reste aux commandes. Il faut toujours se souvenir de ça. Dieu règne, il est au-dessus, et il sait ce qu'il est en train de faire avec chacune de nos vies. Et il est fidèle. Il ne veut pas nous anéantir, nous écraser par le mal, cherchant à nous détruire. Mais au contraire, il veut faire une œuvre qui est belle. Quelque chose qu'on ne comprend pas toujours, mais une œuvre qui est belle dans nos vies. Son projet, dit la Bible, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Imaginez-vous ça, semblables au Fils de Dieu, dans sa perfection. Dieu veut nous conduire vers Jésus-Christ. À noter lequel Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Fils de Dieu a souffert et il a appris l'obéissance. De la même manière, Dieu permet que nous passions par des souffrances afin de nous conduire vers l'obéissance et nous apprendre l'obéissance. Mais il y a certaines souffrances et certaines épreuves que l'on peut sûrement éviter. Je veux dire par là qu'il y a des choses qui sont inévitables dans notre vie parce que Dieu en a décidé ainsi. Et ça arrivera, quoi qu'il arrive. C'est sa volonté directive. Dieu décide, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et donc, il a une volonté et il la met en pratique, il l'accomplit. Dieu fera d'avance tout ce qu'il a prévu et rien ne pourra l'empêcher. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être évitées parce qu'elles ne font pas partie de la volonté directive de Dieu. Elles font partie plutôt de la volonté permissive. C'est-à-dire, Dieu le permet. Il peut permettre certaines choses. Par exemple, il arrive qu'on ait envie de prendre une direction. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais il nous laisse prendre la direction. Et on y va, même si c'est mauvais. Mais il nous laisse, il le permet. Parfois, il dit non, tu n'iras pas par là. Mais parfois, il laisse. Et on avance dans la direction. Parce qu'on fait des choix. Et la vie, elle est faite de choix. Tous les jours, on fait des choix. On se lève le matin, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais déjeuner? Alors ça, c'est bénin. Mais après, il y a des choix pour toute la vie. On fait des choix. Et Dieu nous laisse faire des choix. Il nous a donné un libre arbitre, une capacité, une intelligence, un raisonnement. Et il nous laisse aussi une marge de liberté où on fait nos choix. Et on peut faire des bons choix et on peut faire des mauvais choix. On peut commettre aussi des erreurs. C'est la volonté permissive de Dieu. Et il faut savoir, la Bible le dit, le monde ne le voit pas, ne veut pas le voir, mais la Bible dit que le diable est un esprit mauvais qui est comme un lion rugissant qui cherche à savoir qui il va dévorer. Comment il va réussir à influencer et à nous faire perdre la trajectoire que Dieu voulait pour nous, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Et quand on fait un mauvais choix, que l'on fait notre propre volonté au lieu de celle du Seigneur, alors il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences. C'est-à-dire des difficultés, des souffrances, des épreuves qui pouvaient ne pas être au programme. Elles pouvaient ne pas être au programme, mais elles seront au programme parce que, eh bien, on a fait un choix. On a pris une direction. Et Dieu le permet. Et s'il le permet, c'est aussi qu'il veut nous apprendre des choses, hein, par nos propres choix. Je vous cite un exemple, donc des Écritures. Vous connaissez les 10 commandements, les Juifs, donc ils sortent de l'Égypte, qui traversent le désert, et finalement, après 40 ans d'errance dans le désert, arrivent au pays de Canaan. Ils sont conduits par le général Josué, un homme fidèle, qui est comme un brise-glace, hein, qui va faire tomber tous les obstacles dans ce pays de Canaan. Il entraîne le peuple à la victoire, hein, il pousse le peuple à la victoire. Mais sur le chemin, il va y avoir un piège. Les nations de Canaan, c'est essayer de s'unir les unes avec les autres pour repousser Israël qui arrivait au pays de Canaan. Mais d'autres ont choisi de faire autrement, en tout cas une autre. Hein, et on trouve ce passage dans Josué 9, 3 à 6, on va le lire ensemble. Josué 9, 3 à 6. Je vous lis ce passage. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. » Il faut savoir que Dieu avait dit dans les Écritures, « Tu vas rentrer au pays de Canaan, ces nations commettent des abominations devant l'Éternel. Ils sacrifient des enfants, ils adorent des faux dieux qui sont en fait des démons derrière. » Il a dit, il faudra que tu juges en fait ces nations et donc que tu les extermines. C'est dur pour nous en notre temps, mais c'était un autre temps. Et donc Josué devait carrément aller juger de la part de Dieu ces nations au pays de Canaan. Mais là, ici, il se retrouve avec un peuple, les Gabaonites, qui vont réussir à ruser avec lui. Et à faire croire qu'ils viennent de très loin, et donc ils ne sont pas de Canaan, ce n'est pas une nation de Canaan. Et ils vont faire alliance avec Josué et avec le peuple. Et ce n'est que quelques jours plus tard où ils vont découvrir la fin, parce qu'ils vont arriver finalement à la ville des Gabaonites. Hein. Et là, c'est trop tard. C'est trop tard. Dieu, il dit, hein, quand on fait alliance, ben c'est sérieux. Hein. On a fait alliance. Et alors, il faut respecter son alliance. Et Josué va agir en homme responsable, même si c'était dur, en découvrant ce qui s'est passé. Eh bien, il va respecter son alliance, mais ça va être une épreuve. Quelle leçon pour lui. Qu'est-ce qu'il a ? Il a compris ce jour-là qu'il ne faut rien faire sans consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel, c'est-à-dire, Seigneur, est-ce que je dois faire alliance avec ce peuple des Gabaonites ou pas ? Mais il n'a pas consulté l'Éternel. Il a pris une décision seul et puis il s'est engagé seul. Et après, eh bien, il y a des conséquences. Et nous aussi, on est sans cesse confrontés à des choix, à des directions. Sur le chemin de la vie, il y a des embranchements, il y a des rocades, il y a des carrefours et toujours plusieurs choix qui s'offrent à nous. Et le diable est souvent là à un carrefour. Il se fait très discret et il dit, c'est par là la volonté de Dieu. C'est par là. Il nous souffle une direction. Et si on n'est pas proche du Seigneur, si on ne veut pas chercher à consulter l'Éternel, alors on peut être leurré, tenté. Et puis, hop, on prend une direction. Et on se dit, c'est par là la volonté de Dieu. Et on y va. Josué n'y a vu que du feu. Donc, soyons vigilants, soyons attentifs. Hein. Faisons pas la même erreur, consultons l'Éternel et cherchons non pas notre propre volonté, mais sa volonté. Prenons un autre exemple. Abraham, le père des croyants. Le père des croyants Abraham est dans l'attente d'un fils. C'est le fils de la promesse. Dieu lui a donné la certitude qu'il aurait un fils, quoique sa femme était stérile. Il aurait un enfant et ce serait une descendance qui serait bénie. Puis le temps passe, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et l'enfant n'est toujours pas là. Et là, sa femme, Sarah, commence à s'impatienter. Et elle a une petite idée en tête. Regardez Genèse 16, verset 2. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Pratique qui nous semble un peu incroyable, hein, mais bon, qui avait cours en ce temps-là. Elle donne sa servante à son mari pour avoir un enfant qui accouchera sur ses genoux et qui sera un peu comme son propre enfant. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'Abraham ait un enfant avec Agar? Mais non, non, bien sûr que non. On peut dire que cette décision, c'était le fruit de l'incrédulité. Abraham, celui qui serait appelé le père des croyants, est en train de commettre une profonde incrédulité, un choix où il doute. Je me suis dit, soit il a douté lui-même, soit sa femme a eu suffisamment d'ascendant sur lui, ou peut-être les deux en même temps. J'en sais rien, hein. Peut-être les deux en même temps. Galates 4, verset 23 dit que l'enfant, je vous le lis, l'enfant de l'esclave naquit selon la chair. C'était un choix de la chair, c'était pas un choix de l'esprit, c'était pas un choix de Dieu. Abraham s'est retrouvé devant un choix et il a fait un mauvais choix. Il a choisi d'écouter son épouse qui lui donnait un conseil qui était charnel. Si on réfléchit aux conséquences pour la descendance Israël, elles sont terribles. Alors Dieu n'a pas abandonné Abraham. Dieu a béni Abraham. Il a béni sa postérité. Il en a fait un objet de bénédiction. Mais il y a eu des conséquences difficiles, inévitables. Et Dieu s'est servi de cela et il s'en sert encore. Je vous donne un autre exemple. Une autre femme qui a donné un mauvais conseil à son mari, mais cette fois, le mari n'a pas réagi de la même manière. C'est la femme de Job. Alors que Job est excessivement accablé, elle lui dit « Maudit Dieu et meurs !» Quel conseil ! Quel conseil ! Mais cette fois, Job n'écoute pas. Il ferme ses oreilles. Et même si à l'intérieur, il y avait une souffrance terrible, il ne maudira pas Dieu de ses lèvres. Il ne dira rien de mal. Il va rester ancré, attaché à son Seigneur. Et c'est important d'apprendre à discerner la voix de la chair et la voix du Seigneur, ou la voix de l'ennemi qui peut inspirer la chair. Je voudrais vous donner un autre exemple d'un homme, hein, qu'on ne pense pas que c'est que les femmes qui sont influencées, sachez que les hommes aussi. Hein. Un autre exemple, un homme qui a été mal inspiré, c'est l'apôtre Pierre. Le Seigneur vient de lui parler de la crucifixion. Et là, Pierre dit, « Ah, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Non, tu ne mourras pas sur la croix, ce n'est pas possible. » Et c'est Jésus qui nous révèle ce qui se passe, parce que le passage dit, « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Imaginez ça, Pierre est là, il lui dit ça, Jésus se retourne et lui dit « Arrière de moi, Satan !» Terrible, terrible. Est-ce que Pierre était possédé? Non, il n'était pas possédé. Mais il était influencé par le diable qui était en train de mettre ses pensées, qui étaient charnelles, qui étaient mauvaises, dans le cœur de Pierre. Et Pierre y a adhéré. C'était des pensées humaines. Et il y a adhéré. Ceci pour dire que le diable veut essayer de nous faire quitter la volonté de Dieu. Il veut nous influencer et il peut le faire par une personne qui est très proche ou par un frère ou par une sœur. Et pour le peu que c'est une personne, on a confiance en elle, pas une seconde on imaginera que ça peut être un conseil qui vient de l'ennemi. Et parfois, ça peut changer le cours d'une vie, comme Abraham et sa postérité. Ça a changé plein de choses. Parfois aussi, le diable n'a pas besoin d'une personne pour nous influencer. Parfois, il agit directement sur nous. Ça s'est passé avec le roi David, quand il est, on peut dire, au sommet de sa gloire, il règne sur tout Israël, et là, le diable vient lui dire, « Tu devrais compter tes hommes. Ce serait bien que tu fasses le dénombrement. Hein? Tu regardes un peu, oh, tu es un roi puissant, combien tu as d'hommes qui sont sous toi, qui doivent t'obéir ?» Dieu interdisait de faire le compte de ses hommes en tant que roi, justement parce qu'il savait que ça engendrait l'orgueil et ça faisait tomber l'âme. Mais Dieu a permis à Satan de venir tenter David sur cela. C'est ce qu'on lit dans le livre des Chroniques. Et David qui écrit les psaumes, David qui, on pense qu'il a écrit le psaume 119, qui aime la parole, il ne se souvient pas du commandement. Il a complètement occulté. C'est incroyable. Il est tenté de le faire au-delà du commandement. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Je ne sais pas. Et il faut savoir que le diable peut venir inspirer directement des pensées dans notre cœur. Des pensées qui transgressent même des paroles évidentes de la parole de Dieu. Et on ne le voit pas. On oublie. C'est un piège, une tentation. Le roi David a fait faire le dénombrement quand il a entendu le chiffre. Tous ces hommes, 800 000 et 500 000, je crois, 800 000 en Israël, 500 000 en Juda, son cœur s'est mis à battre. Et là, ses yeux sont souvent ouverts. Et il a dit, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui est proche de Dieu, un homme sage, consultant sans cesse l'Éternel, et pourtant, eh bien, qui se trompe. Ici, qui fait une erreur, parce qu'il y a comme un trou, un vide, et il agit comme un insensé. Pourquoi? Parce que Satan l'a entrepris. Satan s'est occupé de lui. Alors, bien sûr, quand on regarde tout le contexte, on voit que Dieu l'a permis. Il a laissé faire Satan, parce qu'il y avait aussi quelque chose que Dieu voulait juger sur le peuple d'Israël. Mais ça nous montre que l'ennemi, il n'est pas loin et il peut nous influencer et nous faire tomber, nous pousser à la désobéissance et au péché. Parfois, c'est au travers de quelqu'un, parfois, c'est d'une manière qui est directe. Deutéronome 13, 1 à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux ». Des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Ici, c'est un prophète, il ne vient pas de Dieu, c'est un faux prophète qui pousse à s'éloigner de Dieu, à prendre une mauvaise direction. Alors, ça a les allures de la vérité, parce que il dit un signe, il dit un prodige, quelque chose, et ça s'accomplit. Il y a un miracle. Mais Dieu dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc Dieu peut mettre à l'épreuve ses enfants pour savoir s'il l'aime vraiment. Alors bien sûr, Dieu sait déjà, il sait déjà si on l'aime, il sait notre degré d'amour, il connaît tout en nous, il n'a pas besoin de le faire pour lui-même, il est omniscient, mais pourtant il permet des circonstances qui sont révélatrices de notre état, de ce que nous sommes, et ce n'est pas pour lui, puisqu'il sait toutes choses, mais c'est surtout pour nous-mêmes, que nous, on puisse comprendre des choses sur nous-mêmes, qu'on réalise qui nous sommes et qu'on fasse des progrès avec lui. Si quelqu'un, par exemple, pense être très spirituel, quelqu'un qui pense il est profond dans le Seigneur, il est même, quand même, peut-être un peu plus éclairé de ses frères et sœurs, eh bien, il est possible qu'il vive une situation qui sera une mise à l'épreuve. Cette grande spiritualité va être mise à l'épreuve. Comme pour l'apôtre Pierre. Pierre a dit, même si tu étais pour tous les disciples, une occasion de chute, jamais Seigneur, tu ne le seras pour moi. Pierre, vraiment, là, il est bien. Vraiment, il est spirituel. Il y aurait normalement dû y avoir des voyants rouges qui s'allument dans le cœur de Pierre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'il est plus fort que tous. Et que lui, vraiment, il aime le Seigneur. Il a un vrai amour. C'est pas comme certains. Mais ce que c'est pas Pierre, ce qu'il ne sait pas, c'est que Satan vient de le réclamer pour le cribler comme le froment. Satan vient juste de le réclamer. Satan est à l'œuvre. et Dieu le permet. Dieu permet à Satan, eh bien, de s'approcher de lui. Parce que Pierre a quelque chose à apprendre. Parce qu'il s'est enorgueilli sans s'en rendre compte. Dieu l'a béni, Dieu l'a utilisé d'une certaine manière. Alors ça lui a complètement monté à la tête. Alors Dieu va permettre ça. Il va être criblé par l'ennemi. Et puis on avance dans les Écritures et on le retrouve un peu plus loin. Tout penaud, humilié. Et là, il a compris. Je ne suis pas meilleur que mes frères. Même, je peux être pire que mes frères et sœurs. Et là, ça change, ça bouleverse complètement sa vie. Donc Dieu a choisi de laisser Satan sur terre pour nous mettre parfois à l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on doit être constamment dans la crainte et suspicieux. Qu'est-ce qui va m'arriver là? Je vais tomber dans un piège. Mais c'est bien de savoir que tout ne vient pas de Dieu. Et parfois, il y a des circonstances qui peuvent être trompeuses. Il y a des conseils qui s'avèrent être des mauvais conseils. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'on a besoin de se rapprocher du Seigneur. On a besoin de se rapprocher de Dieu. C'est lui qui nous garde. Il n'y a que lui qui puisse nous garder. Il est notre protecteur, il est notre guide, il est notre maître. Et plus on est proche de lui, moins on est en danger. Plus on commence à s'éloigner, plus on est en danger. Ça nous apprend aussi à ne pas nous élever, penser qu'on est meilleur que les autres. Ça m'est arrivé de rencontrer parfois des personnes, des enfants de Dieu, je pense, hein, mais qui semblent être supra-spirituels. Vraiment, mais alors eux, ils ont atteint un stade de spiritualité. En apparence, ils semblent, elles ont vraiment reçu plus que moi, plus que nous. Elles ont tout compris. Il semble qu'elles ont une portion de grâce qui est supérieure. Et puis, elles veulent vous apprendre beaucoup de choses. Et quand vous rencontrez ce type de personnes, je vous le dis à tous, hein, des voyants rouges doivent s'allumer. Hein? Des voyants rouges doivent s'allumer parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Et la vraie spiritualité, elle est humble. Donc, si c'est comme ça, oh là, attention, danger. Et parfois, il y a des expériences. Certains font une expérience et puis... ça les fait monter en flèche et après, ils ont l'impression que ça y est, ils savent. Qu'on puisse être humble, qu'on puisse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et à ce moment-là, le diable va fuir loin de nous. C'est ce que dit la Bible. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Et donc, quand il y a l'humilité, quand il y a la soumission à Dieu, il y a la protection aussi du Seigneur. Tandis que quand il y a l'orgueil, eh bien, il y a une chute qui est certaine, qui va arriver. Donc tout ça, ça devrait nous rapprocher du Seigneur. Comme dit le cantique, notre rocher, notre forteresse, notre appui, notre asile protecteur, c'est Jésus le Rédempteur. Et on n'est en sécurité que quand on reste à ses pieds, et qu'on veut connaître et faire sa volonté. Parce qu'il y a des épreuves, c'est inévitable, mais il y a aussi des épreuves qui peuvent être évitées, certaines. Mais il faut savoir aussi que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais. Ça, c'est très important de le savoir. Il arrive que parfois on fasse un mauvais choix, et puis il y a des conséquences après, mais la vie chrétienne ne s'arrête pas. Dieu est fidèle. Et on peut prendre une mauvaise direction, mais ça n'empêchera pas Dieu de continuer son œuvre dans notre vie et de continuer à nous bénir et de continuer à être avec nous jusqu'au bout. Parce que nous sommes ses enfants. Il va nous apprendre des choses. Hein. Peut-être nous les aurions appris d'une autre manière. Maintenant, ça sera par ce chemin-là. Mais on va les apprendre. Et au final, ce sera bon. Il va y avoir du bon fruit. Et ça, il faut qu'on soit rassurés. Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi. Tu n'es pas seul. » Il t'a réclamé. Je lui ai dit, « Oui, mais j'ai prié pour toi. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Tu vas traverser. » Et Jésus prie pour chacun d'entre nous. J'arrive à la fin. Et si on vit nos épreuves et nos luttes nos tentations, celles qui sont inhérentes à la vie, celles qui sont normales, parce que Dieu permet qu'on passe par ces choses. Tout chrétien est éprouvé dans le Seigneur, alors il ne faut pas se décourager. Dieu nous éprouve parce qu'il vise un but qui est admirable, être semblable à Jésus-Christ. Et ça, il n'y a rien de plus précieux qu'être transformé à sa ressemblance. Pardon. Et je termine. À la fin de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul donne une série de salutations. Il dit « Saluez un tel, saluez un tel, saluez un tel ». C'est très touchant de voir toutes ces salutations. Et au milieu de ces salutations, il dit « saluez Apelles qui est éprouvé en Christ ». Qui est éprouvé en Christ. C'est un autre mot ici, mais c'est aussi un mot qui a un double sens. On peut traduire « éprouvé » ou « approuvé ». Le traducteur Darby a choisi « saluer Apelles qui est approuvé en Christ ». C'est touchant. Plusieurs traducteurs disent « Apelles qui a fait ses preuves ». Qui a fait ses preuves. Et Dieu nous éprouve et il nous permet de faire nos preuves. Et d'être finalement approuvé. Et le terme, c'est dokimos. Autrefois, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas d'argent papier, il n'y avait que des pièces. On prenait du métal, on le coulait, et puis une fois que c'était sec, on limait les bavures qu'il pouvait y avoir dessus, et chaque pièce avait un poids particulier. Mais comme le métal était quand même assez souple, certains petits malins rognaient les pièces, récupéraient le métal, et petit à petit, les pièces diminuaient comme ça. Si bien qu'en un siècle, il est dit qu'il y a eu 80 lois qui ont été promulguées à Athènes pour arrêter cette pratique du rognage des pièces. Mais au milieu de ça, il y avait des changeurs et des commerçants qui, eux, voulaient être droits, voulaient être intègres. Et ils n'acceptaient pas de l'argent qui était contrefait et ils ne redonnaient pas de l'argent qui avait été rogné. Et on les appelait des dokimos. Les dokimos. Et c'est intéressant. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut qu'on soit approuvé en Christ. Alors certes, éprouvé, mais pour être au final approuvé en Christ. Ça donne un sens vraiment à ce que nous vivons, hein, à nos épreuves et à nos difficultés. Dieu est en train de travailler parce qu'il veut qu'on soit au final approuvé. Et je conclue simplement avec un verset, Jacques 5, 10 à 11. Il est dit, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.